Donc voilà, avec ce témoignage, avec cette expérience personnelle, on a déjà un premier aperçu, un premier état des lieux, mais celui-ci se fait par le petit bout de la lorgnette. Et justement, puisqu'on a différents acteurs locaux, on va essayer de tirer parti de leur témoignage pour croiser un petit peu les points de vue et les angles. Alors, on a autour de cette table Yves Bonnel, qui est à ma droite, c'est-à-dire à votre gauche, et je vais laisser se présenter rapidement, puis on va continuer le tour de table comme ça, avant de lancer les thématiques, et puis accueillir les questions, bien sûr. Yves, oui.
Tiens, moi. Donc, micro pour Divergence FM. Moi, j'ai bien. Je trouve que c'est Divergence de loin, j'ai vraiment la vue qui baisse. Ça fait un peu assez combattant, mais ça fait plaisir parce que nous, on est de ce côté-ci, on est un peu les enfants, ce qu'on appelle les petits frères, quelque part. Et donc, moi, je suis arrivé en 87-88 à Montpellier. Je me souviens de cette transition. J'étais à l'école des Garrigues, après le Mirador de la Sardine, et ainsi de suite, les sportives, maintenant, il y a un macadam là, le tropisme.
Merci. Alors, François Pinchot, que tout le monde connaît sous le nom de Fifi.
Voilà, moi j'ai connu au TH, 6-7 ans, je pense. Donc, mon père réparait leur camion, le fameux camion vieux de la tournée 86. Mes premiers concerts, c'était sous le nom de l'émission radio qu'on avait à l'écho des Garrigues, La mort des chrétiens, puisqu'on sortait tous des jésuites, donc on avait quelque chose à exorciser de Saint-François Régis. Et donc on a fait, il y a les gardiens du Canibou, je crois, qui sont devenus Beach Beaches et maintenant les Lemidianas. Et puis après, départ pour Paris, revenir 96. Première salle, c'est Vandargue en 96. Secret Place, on a pris le local de la TAF en 99. On a ouvert en 2008 officiellement. On a eu 10 ans de galère à ouvrir, c'est pour ça que ça s'appelait Secret Place. On remercie les chantiers de la mairie et de la région, on peut le dire, 10 ans après. N'étant pas subventionné, on se servait sur les chantiers de l'État pour ouvrir officiellement, et là on peut le dire. Voilà, c'est aussi ça le punk rock et la démerde. Et comme on disait, on est les petits-enfants, mais moi je remercie particulièrement les membres des shérifs, Michel, qui a fait 99% du bâtiment. Les vierges, sans qui on ne serait pas là pour le matériel, au TH pour la batterie. Voilà, en gros, on est là à cause de vous. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, Guy Bral passe son tour puisqu'il a déjà parlé. Et donc, maintenant, Philippe Rondeau, je vous laisse vous présenter.
Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Donc, nous, avec Olivier, des shérifs, des voiles, on était à l'UL, nous, donc on était loin de Montpellier. On avait quoi, 15, 16 ans, et donc pour nous, Montpellier, c'était loin, c'était un peu la capitale. Mais ça nous a pas empêché d'être loin de tout ça, mais d'aimer la musique. Donc, on a commencé notre truc de notre côté, et puis en 81, on a fait un concert à l'UNEL, enfin un concert, si on peut appeler ça un concert, puisqu'on nous a coupé le courant pour arrêter, enfin bref. Et on a rencontré Punky, donc, qui jouait en vitriol à l'époque. Donc c'est la première personne de Montpellier qu'on a rencontrée. Et puis donc on a commencé à venir à Montpellier, et puis bon, OTH était déjà installé, connu, donc pour nous c'était un peu les grands frères aussi. Hein. Et puis voilà, et puis donc on avait un groupe qui s'appelait Vaughan. Et grâce à Guy Barral, hein, parce que Guy Barral, avec mes souvenirs et records, a fait énormément hein, pour la musique. Ça nous a permis de sentir un 45 tours. Parce que même si tout était. Si on pouvait tout faire à l'époque, c'était quand même très compliqué, malgré tout. Donc c'est beaucoup grâce à. Et puis enfin, tous les gens qui ont été cités ont participé. Et puis voilà, donc on a arrêté Vaughan. En fait, parce que moi et Olivier, on n'était pas assez bons, donc on s'est fait virer. Et voilà, et puis donc on a fait les shérifs.
Voilà. Merci beaucoup. Et donc.
Les vierges après.
Et les vierges. Ouais. Et comme quoi, il y a du sens. Il y a beaucoup d'humour dans le punk à appeler un groupe de punk. Les vierges, c'est pas mal.
Ouais, c'est, en fait, les vierges, c'était une plaisanterie hein, au départ. Ça ne devait pas exister. Il y avait un concours que le Rock Concours, sa victoire, pour contrebalancer le concours du Grand Odéon, qu'on n'aimait pas évidemment. Donc ça s'appelait le Rock Concours et voilà. Donc, il y avait les frères Picon qui voulaient faire un groupe, ça devait durer qu'un soir. Le premier bassiste était Bebeu, qui nous a quittés ce mois-ci, et voilà, donc ça devait durer un soir, et puis on a continué, et puis voilà, c'est devenu les Vierges, et voilà.
Merci beaucoup. Et donc maintenant, Thierry Santé.
Voilà, on m'a vu ce matin. Bon, disons, ce que j'ai fait dans la scène sur la scène de Montpellier n'est peut-être pas très important. J'ai joué dans les groupes GAG comme Tampax, Bon Vitriol, qui était nettement plus dur et plus pénible. Ensuite, j'ai fait pendant 10 ans la déconnexion plus rock'n'roll. Et ensuite, maintenant, je suis arrivé à Stalingrad, qui depuis 15 ans, je torture les oreilles de mes contemporains, avec notamment Thierry Dubois qui nous a aidés. Mais ça, c'est pas vraiment le plus important. Le plus important dans le rock montpellierain, c'est qu'en fait, comme je résume, le rock montpellierain, trois familles, OTH, les Shérifs et les Vierges, et surtout moi, j'étais l'ami de la famille.
Merci beaucoup. Et donc, on termine avec le bassiste d'OTH.
Bon, moi, je confirme. Vraiment, à chaque fois qu'il y a eu Thierry en concert, j'étais sûr que ça allait... le pogo allait être annulé. Moi, je suis fille au TH et voilà, je suis assez surpris qu'on parle de ça dans une université. D'ailleurs, c'est la première fois que je rentre dans une université. C'est l'école de la rue qui s'habille ici, quoi. Pour moi, je suis très étonné parce que, en fait, ce dont on parle, c'est d'un phénomène de jeunes. Et depuis, enfin, quand j'étais gamin, qu'on traînait dans les caves et tout ça, ce qui me surprenait, c'était de voir les adultes se quereller entre eux et tout ça. Et il n'y avait pas de place pour les jeunes. Et en fait, les seuls endroits où on pouvait vivre, c'était dans les caves, dans les garages, dans les endroits où on pouvait se faire oublier, quoi. Et même après, avec ma famille, on arrivait de loin, donc on est arrivé en 68 ici. Et j'étais surpris parce que Montpellier, à l'époque, c'était un bonhomme qui s'appelait Delmas, qui était maire. Et Montpellier, c'était la ville tristounette, après ça, tu meurs, quoi. Et bon, moi, je traînais souvent dans les rues parce que je supportais plus, enfin, je supportais pas mes parents, donc je tardais à rentrer le soir. Et le soir, il n'y avait pas un chat. Mais alors, c'est incroyable. Et le seul endroit animé, c'était la gare où il y avait à l'époque des bidasses qui buvaient des coups, voilà, et qui foutaient des torgnoles. Et en fait, c'était un climat mortifère, quoi. Et là-dedans, là j'ai pas préparé mon truc, mais j'ai capté un petit mot, c'est très rapide. Ce ne sont pas les rebelles qui créent les problèmes du monde, mais les problèmes du monde qui créent les rebelles. La révolte, c'est la vie, la soumission, c'est la mort. Et pour moi, ça résume un petit peu tout ce que j'ai ressenti à travers le parcours d'OTH. OTH, c'était une rencontre alchimique de cinq jeunes qui se faisaient chier grave et qui avaient un besoin d'exprimer une révolte, des émotions qui étaient contenues. Et quand on n'a pas les mots, en fait, la musique, c'est la meilleure des thérapies parce que ça défoule et tout ça. Et donc, en fait, les cinq premières années avec OTH, on était bien dans notre local. Pour nous, c'était notre temple, c'était notre point de rendez-vous. Et puis, on s'était fait repérer parce que tout le monde était invité. Et on faisait une sacrée soirée devant. Donc, en fait, c'était... voilà. Salut. Et donc, voilà, et en fait, c'est la société qui a créé, qui est, qui crée ça. Et en fait, depuis tout le temps, ça n'a pas évolué beaucoup. Et pourtant, les jeunes, c'est l'avenir du monde, quoi. Et ça naît de frustration, d'un besoin de vivre. Et en fait, quand on est jeune, on a l'énergie. Et on est dirigé par des vieux cons. Voilà. Et pour moi, c'est je vois la musique comme... Avec Alain Voyer, je me prenais souvent à la tête parce qu'il me disait « Mais ta musique, c'est politique. » Et moi, j'ai horreur de ce monde-là parce que pour moi, c'est... Ils sont sur notre planète, ils savent pas de quoi ils parlent. La musique, c'est authenticité, quoi. Et avec OTH, on s'est jamais... on s'est jamais fait jeter. Même si on a essuyé les plâtres bien souvent, il y avait des sonos pourris, des scènes qui n'étaient pas faites pour ça, et on s'est jamais fait jeter parce que les mecs, ils avaient 5 mecs qui étaient prêts à en découdre, mais pas en découdre physiquement, parce que c'est... Tout le monde se bat, c'est complètement con, parce qu'il y en a toujours un qui perd, et puis l'autre qui gagne, à quoi ça sert? Alors qu'on avait une espèce de besoin de revendiquer qu'on vit, qu'on a envie d'être fun, de dire des conneries, de boire des coups, de vivre, quoi. Et pour ça, Spi était... était génial parce que tous ces textes décrivaient complètement ce qu'on vivait. Et d'ailleurs, chaque texte de Spi, c'est une aventure d'OTH. Donc, en fait, il n'y a pas grand chose à dire parce que tout est dans ces textes. Après, OTH, c'est pas que. Le succès d'OTH, c'est aussi. Plein de gens qui gravitaient autour, Tony et Daniel Coponelli, Mika, tellement de gens sans qui on n'aurait jamais pu, parce que je me souviens, c'était. Il fallait avoir un sonorisateur. Avoir un son, c'était avoir un sonorisateur. Donc il y avait Fred André qui a une boîte de son. Il s'était construit sa boîte de son à Lyon en sonorisant le pape, la seule fois où il était à Lyon. Il s'est fait doubler, il s'est acheté une sono, et c'est ce mec qui était génial parce qu'on l'appelait, il disait écoute Fred, on est en galère à tel endroit, pas de problème, il prenait son camion, il arrivait avec la sono, il nous mettait un son, la patate, quoi, comme il y a sur le live. Il y a tellement de gens qui gravitaient autour de nous, qui ont fait notre succès aussi, parce que bon, Tony, il était tout le temps là, bon, on faisait bien la fête aussi, mais il était tout le temps là, et ses photos, c'est vrai qu'elles sont remarquables au niveau du noir et blanc, de l'empreinte de cette époque, mais il y a tellement de gens qui ont participé. Après, bon, je suis un peu étonné parce qu'on calculait rien, quoi. On fonçait, puis en fait, il s'est trouvé qu'on a eu de la chance de tomber au bon moment, parce que nous, on aimait le gros son, on aimait le hard rock, le truc Aerosmith, les Stooges, les Kings, enfin, il y a tellement d'influences, chacun avait des influences diverses. Et en fait, après le concert Pirate, c'est un événement qui a fait le tour de France dans les journaux. Et puis on se retrouve à Paris et dans le métro. Et ça, c'est. Il y avait Bebe, Jacotte et Samy, je crois, un truc comme ça. Et puis il y a une bande de punks qui débarquent. Et ils se sont dit, on va se faire casser la tête, quoi. Et en fait, les mecs, ils voyaient un badge d'OTH sur le blouson de Samy. Ils disent, ouais, tu connais OTH, tout ça. Il dit, ouais, c'est nous. et du coup, ils disent, ouais, putain, OTH, on a vu que vous aviez fait votre premier. Enfin, vous avez fait un concert pirate pour revendiquer ça et tout ça. Putain, qu'est-ce que vous faites ce soir? Ce soir, nous, on joue. Et du coup, on s'est retrouvés à faire leur première partie, le soir même, dans un squat, avec les garçons bouchés, Alors, les garçons couchés avec le premier chanteur, je ne sais pas si vous aviez vu la masse et le col, ce que c'était, une agressivité. C'était vraiment. C'était pas le premier ? Ben, c'était lui. Ouais, c'était lui. Et une grande brute, mais alors, tu avais l'impression qu'il allait te taper dessus. Quoi. Et alors, il y avait eux, OTH et les Bérus. Dans une salle qui était désinfectée, ils avaient cassé un mur, et il fallait se faufiler, 1500 personnes, des crêtes, de tout, et sur les 1500 personnes, j'avais été surpris, parce qu'il y avait une trentaine de skins, et c'était les loups dans la bergerie. Et puis, je me souviens du guitariste des Bérus, qui se précipite dans la loge, il sort d'un sac, il sort un manche de guitare, parce qu'il s'en servait comme... Et puis ils sont partis en découdre, j'ai rien compris. Hein. Voilà. Mais et en fait, c'est grâce aux Bérus qu'on a été récupérés dans la scène rock alternative, et c'est eux qui nous ont propulsés dans ce milieu-là, parce que nous, on n'avait pas vraiment d'étiquette, on s'en foutait, on avait des... on était des gamins de cité, on avait fait du foot, on avait joué au cowboy, on fait du foot, on voulait être des champions du monde. Et après, quand on a vu quand Domi a apporté sa guitare, on voulait être des stars. Mais le truc, c'est qu'au bout de 10 ans, on se retrouve en tournée, machin, tout ça, dans un hôtel 5 étoiles, avec des peignoirs blancs, à se balader dans les couloirs, se dire, mais tu te rappelles quand c'était notre rêve, et puis là, on dépassait notre rêve. Et c'est important d'avoir des rêves, quoi, de ce... Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le rêve nous dépasse, et puis, voilà, peut-être que aussi OTH s'est arrêté au moment... Enfin, moi, maintenant, avec le recul, j'analyse ça comme ça, mais peut-être qu'OTH s'est arrêté au moment où on allait passer sur un stade un petit peu plus international, commencer à faire des tournées au Canada ou des choses comme ça. Et peut-être qu'on n'avait pas les épaules pour ça, parce qu'on n'était pas... Au théâtre, on n'était pas des musiciens, on n'était pas vraiment des musiciens. On a appris à jouer presque sur scène. Et en fait, pour nous, le truc, c'était de faire le show. Ouais. Et puis en fait, petit à petit, on est devenus des guerriers, parce qu'il y avait une espèce de plaisir à jouer avec une efficacité redoutable, avec des syncopes, des trucs comme ça qui tranchent et qui foutent des baffes. Et Punky était au milieu pour mettre l'animation dans le pogo. on prenait plaisir à ça. Et après, quand petit à petit, au fur et à mesure des albums, on a progressé, on a rencontré des gens formidables, et on s'est aperçu que vraiment, on n'était pas, on n'avait pas vraiment peut-être la carrière de musiciens internationaux, mais nous, on s'en foutait, on nous proposait de jouer au Canada, et on croyait qui c'est qui va cracher dessus, ou des trucs comme ça, voilà. On a eu beaucoup de chance. On a eu une chance extraordinaire. Je pense à tous, à Domi et à Bobeu, qui sont partis. Et donc, il n'y aura plus jamais un clash. Et je vous remercie tous.
Merci beaucoup, Philippe. Et donc, effectivement, vous avez évoqué la mort de Didier Manon, la mort récente de Didier Manon, donc condoléance, bien évidemment. Et alors, vous avez évoqué ce moment où, tout en restant punk, votre musique a parlé au grand public. Vous avez évoqué ce dilemme entre art d'un côté et business de l'autre. Vous avez évoqué à demi-mot aussi le moment où, finalement, la maison de disques avait mixé votre dernier disque avec un son très différent de celui que vous aviez lorsque vous jouiez entre vous, ouais. Et ça a été la fin d'OTH. Plus que toute autre chose, tout ce que vous avez évoqué évoque un lieu, une salle, un moment, et je crois que c'est le bon moment pour passer la parole à Fifi, justement, pour parler du lieu, de la salle, des choses comme ça.
Ce que tu veux.
la question du lieu, d'une salle, pour n'importe quel groupe punk, pas forcément au TH.
Ben, en tout cas, on est en 2019, je sais que ça s'est arrêté en 2016. Il y a les représentants du KGB et nous-mêmes. Si on est arrivé à faire notre propre salle, c'est que le constat, 30 ans après, le rock est toujours peut-être pas le bienvenu dans les grandes salles ou les salles institutionnelles. Ou alors il s'est étatisé et les gens qui sont à la tête ont oublié d'où ils venaient peut-être. Je vais pas me faire des amis. Et c'est peut-être ça aussi le truc. Alain Boyer a été le premier salarié super. Ça a été, Montpellier a été à l'initiative des SMAC. Parfait, on s'est distingué 30 ans après. Faites le tour des groupes de rock, puis ça va pour le rock, pour le hip-hop, pour le reste. Les portes elles sont toujours fermées, donc heureusement qu'il y a les bars au centre-ville, heureusement qu'on est là, heureusement qu'il y a le KGB. Parce que c'est pas plus facile d'accès, voire plus difficile, puisque le public s'est amoindri. Les chapelles sont plus divisées. Le punk maintenant, c'est du hardcore. C'est des, comme on disait ce matin, ça va sur le hardcore, sur le métal, sur plein de styles. Donc avant, il y avait OTH, il y avait les shérifs, il y avait les vierges. Bon, mais voilà, c'était le rock français.
Alors à propos de vierges, on va pas déflorer le sujet de tout à l'heure. Vous aurez largement une place à occuper, mais pour comprendre pourquoi 30 ans après il est toujours difficile d'avoir un lieu où une musique autre alternative peut s'exprimer, peut-être qu'il faut remonter le cours du temps. Et alors, pour ce faire, on va faire appel un petit peu à l'historique des salles, à commencer par Victoire, puis Victoire 2. Pour le coup, est-ce que c'est peut-être Thierry Salpé qui peut nous dire quelque chose à propos de...
Oui, peut-être. Qu'est-ce que tu veux, à propos de... Des salles.
Historique des salles, oui.
Historique des salles, bon, ben, y a eu d'abord, au tout début, le rock, à sa salle générale, n'avait pas lieu d'être dans Montpellier. Voilà, dans les années 70, toute musique électrique était bannie de Montpellier, c'est pour ça que qu'est-ce qu'on faisait là pour faire des concerts? On trouvait les salles des fêtes dans les villages environnants, dans le village ou périurbain. Alors bon, c'était une belle galère parce qu'il fallait louer le sono. Fallait trouver une salle qui t'accepte, t'arrivais avec trois groupes, on trouvait les trois groupes qui avaient envie de faire un concert, c'était généralement les musicos qui organisaient leur propre concert, donc tu te tapais une allocation d'une sono, t'avais pas l'argent mais tu escomptais la payer avec le prix des entrées, cool. T'arrivais à louer la salle des fêtes de Castries par exemple, après avoir moult et moult tractations. T'arrivais là-bas, tu te pelais ça toute la matinée, l'installation, t'achetais le bar, t'achetais des canettes de bière pour essayer de faire un peu d'argent, mais tu te le faisais sucrer par le comité de fête local qui te disait « Non, vous n'avez pas le droit de vendre des bières, par contre, nous on reprend le truc, c'est nous qui le vendons, on vous rachète votre stock et c'est nous qui ferons le bénéfice. » Voilà, tu te tapais avec les potes qui faisaient les entrées, bon, ensuite ça, tu avais tout mis un baston ou deux, manière, parce que c'est pas ça. À la fin, tu faisais ton concert, le groupe, quand il montait, était épuisé, avec un son de merde que tu n'as jamais entendu. Ça finissait comme ça. Au début, c'était ça. Et tu jouais, tu fais la tournée triomphale, c'est Mathieu Trévier, Guzargue, Galargue, Boirargue, et quand ta Boirargue a eu soif, on a initié d'arriver à Sussargue. Voilà, ça a été ça. C'était ça, c'était les débuts du rock à Montpellier, c'était là-dedans. Ensuite, il y a eu le combat dont je parlais ce matin pour la salle. Ce qui a débouché sur la salle Victoire 1 avait eu quelques petits concerts aussi au pavillon populaire, puisqu'au TH a démarré au pavillon pop, mais pour avoir le pavillon pop, c'était la croix et la bannière.
Tout à l'heure, je parlais de Montpellier Mortifère, et justement, les groupes qui existaient à cette époque-là, c'était des groupes qui pouvaient avoir des locaux de répétition, parce qu'avoir un local de répétition, c'était exister. Il n'y avait rien sur Montpellier et je parle aussi des jeunes qui sont abandonnés, on ne s'occupe pas d'eux et de leur énergie. Voilà. Donc en fait, nous, ce qui nous a profondément boosté, c'était, tout à l'heure Thierry Faté en parler, c'était l'association Peuple et Culture qui nous a amené à jouer à Berlin à l'époque du mur. Et là, ça a été la grosse baffe. Parce que c'était une ville qui était partagée en deux. Je me souviens, il y avait une espèce de tour avec au bord du mur, et c'était une sorte de, enfin, tout à fait en haut de ce gratte-ciel là, et il y avait un bar, et je passais ma nuit à regarder. Alors d'un côté il y avait un Berlin tout gris avec des lampadaires, et puis de temps en temps une silhouette qui se baladait comme ça avec des miradors. Et de l'autre côté, une ville illuminée avec la jeunesse de toute l'Europe qui était là, des punks de tout. On avait croisé dans des boîtes, on avait croisé Soucien de Banshee, enfin, on pouvait croiser plein de gens. C'était hallucinant. Et avec des rats dans les blousons colorés et tout ça. Bon, pour des petits provinciaux, c'était un peu choquant. Et quand on est revenu avec des rats dans les blousons, enfin les blousons colorés, tout ça. Et puis on s'est dit, mais il y a deux solutions. Soit on part à Paris, parce que ici ça va être la galère, on va pas refaire l'histoire. Ou soit on reste ici, mais il faut que ça bouge, quoi. Et justement, c'est ce qui nous a motivés pour faire le concert pirate. Et justement, on a eu la chance aussi, comme par hasard, que Georges Frêche était en période préélectorale. Et donc, en fait, on lui a mis la pression en prenant le squat au bord de la voie rapide. C'est une ancienne usine désaffectée. Bon, c'était impossible parce qu'en fait, tout autour de cette usine, il y avait plein d'habitations. Donc, il y a plein de gens qui s'étaient fédérés à ce mouvement, qui venaient de Barcelone, de partout. Et en fait, c'était impossible de faire. On avait installé l'électricité, etc. On y vivait dedans avec les rats. Et c'est les rats qui nous ont chassés parce qu'à la fin, il y avait trop. Et puis on n'était pas assez nombreux pour lutter contre. Et donc en fait, on a baissé les bras par rapport à ce squat. Et comme Frêche était en période préélectorale, pour faire bonne impression et pour peut-être certainement pour récupérer des voix, il nous a filé la salle Victoire qui était sur un projet de démolition. Et il faut dire qu'il y a eu l'avant et l'après. Et le but avec cette salle Victoire, c'était de faire des entrées pas chères et enfin de pouvoir voir des groupes et que les mentalités évoluent. Parce que l'avant cette histoire, c'était on se baladait dans les rues avec une bague, avec une tête de mort, on se faisait tabasser. Si on était différent, on se faisait tabasser, quoi. Maintenant, je vois plein de jeunes avec des jeans troués. Nous, on était catalogués et pourchassés, quoi. Et le fait qu'il y ait des groupes qui viennent à Souris des Gagnés, et plein d'autres, au bord camp et tout ça, ça a fait évoluer les mentalités et surtout ça a fédéré tous les jeunes. Et enfin, il y a eu un mouvement qui s'est créé. Speed le disait très bien, c'était notre mode de vie. C'était pas. Il n'y avait rien de calculé, c'était notre façon de faire, d'avoir envie de faire évoluer les choses parce que. Notre environnement était mortifère, donc on avait envie que ça bouge, quoi. C'est tout. Mais c'est une lutte qu'il faut pas lâcher, parce que encore aujourd'hui, on a des gens qui nous dirigent, mais ils s'occupent de leur querelle intestine, tout ça, entre eux, mais ça leur donne de bons prétextes pour ne pas s'occuper réellement des problèmes qu'il y a. Et la jeunesse du monde a un potentiel extraordinaire, l'humain a un potentiel extraordinaire, et c'est pas dans la haine, c'est dans la rage.
Excusez-moi, parce que je vais partir, mais je vais juste dire un petit mot. Punk, bon, c'est un mot anglais, peu importe. En fait, ce qu'on voulait, Phil l'a résumé, hein. On voulait s'affirmer, être nous-mêmes, et essayer de ne pas rentrer dans le moule, s'exprimer en s'habillant comme on voulait, faire la musique qu'on voulait. Et je crois que ce qui est le plus beau, c'est qu'on arrive encore malgré tout, même s'il va bien falloir qu'on rentre dans le moule un peu quand même, hein, bien manger. Voilà,
on continue à faire de la musique. Et voilà, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et une pensée pour ceux qui ne pourront plus.
Qui continuent ailleurs. Hein, pour une pensée pour ceux qui sont ailleurs et qui continuent leur tour.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc, et puis ouais, vraiment, je ne pensais pas que je parlais de ça dans une université. Je pense que dans les années 80, je pense que dans les années 80 même pas on aurait envisagé. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Voilà, donc merci à tous et puis
merci
pour je dois y aller, désolé.
Merci.
Je vais maintenant passer le micro à Yves Gomnel pour qu'il nous parle peut-être, s'il le sent, un petit peu de la dimension esthétique du punk. Et je ne parle pas simplement des vêtements.
Ah ouais, c'est costaud parce que là, quand même, déjà pour moi, encore une fois, je veux dire, avec beaucoup d'émotion. Quand je suis arrivé, je me retrouve vachement là parce que vraiment, avec Fifi, on est un peu les petits frères. Et nous, effectivement, à chaque fois que tu as dit un mot, je sais à quel point la pensée qui nous a animés, effectivement, si aujourd'hui on a un lieu qui est une coopérative qui est ouverte à Montpellier, c'est parce qu'on sait que cette filiation pour nous est super importante, j'ai l'émotion de le dire. Et c'est vrai, parce qu'en fait, moi quand je suis arrivé en 88, on est venu ici d'Orange, ville qu'on connaît maintenant par rapport à. Qui avait déjà une mentalité particulière et qui ne s'est pas arrangée. Et on est arrivé ici parce qu'effectivement, il y avait eu le squat d'OTH, parce qu'il y a eu cette dynamique. Et que chaque fois, ce qui a structuré notre pensée, moi pour le coup j'étais étudiant à Paul Valéry, j'ai raté mes études un peu à cause de vous, il faut bien le dire, et à cause de moi surtout. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était quelque chose qui, voilà, à l'heure actuelle, quand j'essaie de faire le bilan de ce qui nous a animés, il y a eu effectivement tout le mouvement punk anglais, les crasses, etc., tous les gens qui étaient là qui ont structuré la pensée, le mouvement alternatif qui a été très important pour nous. C'est-à-dire comment en arriver à s'emparer, à devenir vraiment aussi dans une espèce de logique d'autoproduction, de créer ses moyens de production. Tu as parlé tout à l'heure par rapport à créer ses pochettes, créer ses labels, créer ses médias, éphémères, l'écho des Garrigues, quand on est arrivé, pour nous c'était la maison. Et tout ça, ben, quelque part, c'était structuré par les paroles d'OTH qui sont vraiment des choses qui, pour nous, avaient vraiment du sens. Quoi. Quand on disait la France dort, moi j'y repasse quasiment tous les soirs parce que je trouve que la France dort encore beaucoup en 2019. Hein. Et donc c'est vrai que tout ça, c'était cette histoire de est-ce que le rock'n'roll est la dernière aventure du monde civilisé? Je me pose toujours la question, hein, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas eu d'autres aventures depuis. L'esthétique, la question de l'esthétique, finalement, elle est assez paradoxale, parce que déjà, si on passe années 76, 77, etc., il y a beaucoup de divergences, on va dire, en termes de musique. Parce que c'est quoi le point commun qu'il y a entre les Sex Pistols, les Clash, et peut-être des choses plus engagées, ou les Damned par exemple, je prononce très mal, hein, si je suis français, mais il n'y a pas de point commun. Musicalement, il y a des moments, il y a une cristallisation, il y a la jeunesse, la révolte de la jeunesse par rapport à la place qu'on lui fait, un monde qui ne s'est pas amélioré, des constats qu'on peut partager encore 30 ans plus tard, et même beaucoup plus longtemps, je pense. Effectivement, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? C'est qu'effectivement, cette énergie-là, esthétiquement, ça a été quelque chose qui a été peut-être la provocation, t'as raison, il y a cette idée-là qui était assez forte. Moi, je crois que c'est fort, mais... Non, mais c'est vrai, la provocation, ça a été certainement une démarche, mais cette démarche-là, c'est vu que la provocation, d'un point de vue mouvement politique, entre guillemets, ça ne se fait pas aller bien loin. Pour nous, ce qui était vraiment structurant, c'est d'être Kennedy, c'est-à-dire ne critique pas les médias, sois le média. Quelque part, ben voilà, ces mots de Biafra, c'est quelque chose qui a structuré tout ce qu'on a fait. Et quand on a fait des fanzines, bon voilà, le Mirador de la Sardine, après le Caucasine, etc., ou l'Écho des Garrigues, cette idée-là est maintenant peut-être des blogs, des choses qui existent sur Internet, c'est vraiment cette idée qu'en fait, on s'emparait des médias pour raconter ce qu'on avait envie de raconter, parce qu'on ne le trouvait pas. Parce que quand on regardait la presse, quand on regardait Best et Rock'n'Folk, on avait qu'une envie, c'est d'y mettre le feu. Et parce qu'en fait, on se disait, ils sont où les groupes comme nous, je ne sais pas, regarde quoi, mais il n'y en a pas. Tous les groupes d'ici, il n'y a personne qui en parle, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des choses. Dans cette esthétique-là, je regardais, puisqu'il fallait faire le bilan, une espèce de rétro-planning, la compil de l'Écho des Garrigues, donc les dieux se nourrissaient de sardines d'Ambroisie, première compil, avec la déconnexion, hein, et avec Rachid et les ratons, etc. Quand on voit esthétiquement la pochette, elle n'a rien à voir avec le punk, C'est un dessin complètement flambant dans cette idée très réinventée, très école sétoise finalement au niveau graphique. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de complètement pas punk du tout. Hein. Mais par contre, les groupes qu'il y a dedans, il y a des groupes qui sont des groupes punk français étiquetés comme ça en tout cas à l'époque. Il y a Cormac de Touscadou qui n'a rien à voir, qui est un alien complet, qui restera, je pense, dans 100 ans encore un groupe alien. Et bien voilà, ça voulait dire qu'en fait, il y avait cette capacité dans ce mouvement-là à faire se rencontrer des gens qui n'avaient pas grand-chose à se raconter esthétiquement, parce que entre le reggae, je pense à beaucoup de groupes de reggae par exemple, et une scène plus hardcore, il n'y avait pas vraiment d'atome crochu, si ce n'est qu'ils avaient le même message, peut-être la provocation, peut-être le rejet d'une certaine idée de la société. Dans la question de l'esthétique, effectivement, on va retrouver des choses qui sont des gimmicks, l'usage des collages, on va retrouver des gimmicks qui vont être effectivement l'idée d'emprunter, d'avoir une vision aussi qui est à la fois très littéraire. Hein. C'est assez intéressant de voir qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un mouvement qui s'est inspiré de beaucoup de choses par le passé. Alors vous savez bien sûr que le premier à avoir eu les cheveux verts, vous savez qui c'est quand même ? Baudelaire, bien joué. Et ouais, non, c'est ça, c'est vrai, c'est, cette histoire-là, elle ne sort pas de nulle part. Donc c'est vrai que la provocation, on va retrouver par exemple, je suis très fan des dames, et c'est vrai qu'on va retrouver toute une posture très, très dandy, qui est une posture en fait là aussi empruntée au 19e siècle à des auteurs romantiques peut-être aussi, qui est assez loin finalement de cette image voilà, un peu classique de la Crète. Quoi. Là aussi il y a un truc qui m'a en réfléchissant, quand nous est arrivé, qu'on a grandi, donc, et qu'on s'est retrouvé, on est arrivé avec le mouvement alternatif, ça a été aussi toute une espèce de poussée hormonale en France, et avec l'envie de bousculer les choses. On s'est retrouvé aussi dans une ambiance où, c'est marrant, parce que c'était un peu ce que vous aviez vécu dans les années 70, c'est-à-dire qu'en fait, dans les années 70, ceux qui avaient vécu mai 68 trouvaient que les années 70, c'était chiant à mourir. Et nous, on s'est retrouvés avec vraiment la grosse patate, la mine en fer, les Beru, machin, bidule, Parabellum, etc. Et en fait, on nous disait tout le temps, ouais, mais les Noctet, c'est pire que tout, quoi. Je repensais à ça, c'est-à-dire que le nom de ce colloque, hein, il n'y avait rien de pire, si tu voulais passer pour quelqu'un qui ne comprenait rien en musique, que 10 heures après t'écouter de la musique de punk Noctet. C'est-à-dire Exploited, alors là, c'était même pas la peine, tu étais le bourrin des bourrins. Tout ça, c'était vraiment... Autant il y avait un intérêt pour certains mouvements musicaux qui étaient un peu plus, on va dire, voilà, on était passé à l'idée que c'était fini. De toute façon, il ne pouvait pas y avoir de futur, puisque c'était un mouvement qui était par essence mot futur. Donc quand on se retrouve, bon, en 2019, parler du mot futur, c'est un peu bizarre. En même temps, ça se précise, hein, pour... on voit tous qu'on s'en rapproche. Mais ça veut dire quand même que quelque part, il y a cette idée qui est assez forte, qu'en fait, ben, finalement, on avait sifflé la fin du match. En gros, Malcolm McLaren avait fait un coup de pub, avait ramassé la maille et arrêté tout, c'est fini, c'est bon, on passe à autre chose, maintenant ce qu'il faudrait c'est changer de coupe de cheveux. Bon d'accord, c'est ce qui s'est passé en grande partie dans la scène, hein, musicalement, esthétiquement, mais ça veut dire qu'en fait on arrivait dans cette idée que le Not Dead, c'était pas la musique intéressante. Et moi je me souviendrai toujours, parce que ça a été un des trucs qui a été fondateur chez nous, en tout cas dans mes collègues, c'est qu'en fait Philippe Manœuvre, qui était quelqu'un qu'on admirait énormément, qui est... Nous avait fait découvrir quelque chose qui était incroyable. Moi, j'étais gamin, je me suis couché très tard dans la nuit pour voir le film des Clash. Donc, quand j'ai vu Hot Boy sur les chaînes de télé françaises à 2h du matin, c'est quelque chose, j'avais 12 ans ou 13 ans, ça a marqué ma vie à jamais. Donc, pour nous, c'était quand même quelque chose de très important. Et qu'est-ce que je lis dans la presse ? Chronique du premier album des Dead Kennedys, c'est un massacre. Il massacre chaque ligne en disant que c'est un groupe qui n'a pas d'avenir, que la scène Not Dead, elle est morte, elle est enterrée, que le punk est enterré, qu'il faut arrêter tout. Ça a été moteur, pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, il fallait enterrer nos idoles et créer nous-mêmes nos propres cultes, quoi, parce que sinon, elle ne s'en sortirait jamais. Mais voilà, vous voyez comment en fait, à cette époque-là, quand on est en 88, la scène dont on parle, elle n'est même pas réchauffée, elle est morte et enterrée, et tout ça, ça va passer à autre chose. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on va voir qu'elle va connaître plein de renaissances. Et cette renaissance, nous, on va l'accompagner. Quand tu parlais, par exemple, de Berlin, effectivement, avec Club et Culture, on va partir dans les pays de l'Est, juste à la chute du mur de Berlin, et on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a une énergie, on va la redécouvrir en Espagne. J'ai vu quelqu'un qui avait un t-shirt tout à l'heure d'un des groupes espagnols qu'on passait beaucoup à l'Écho des Garrigues, ça m'a rappelé des bons souvenirs. On va s'apercevoir qu'effectivement, esthétiquement, il y a une renaissance permanente. Et c'est peut-être qu'en fait, ce que tu as résumé aussi, c'est cette révolte de la jeunesse. Et c'est ça qui est quand même quelque chose de fort, parce que là aussi, en réfléchissant sur ce qu'un de mes camarades a pu faire toutes ces années, finalement, ce qu'on a perdu des fois dans le rock'n'roll, on va dire la musique à deux doigts, on l'a retrouvé ensuite sur les platines. Quand les Spiral Tribe ils sont arrivés à Montpellier et qu'il y a les Free Party qui sont arrivés, c'était un truc de malade qui s'est passé, ça a retourné la ville. Et à une saison où on a vu tous nos collègues qui écoutaient du rock commencer à écouter plus que de la techno, et ce changement-là est incroyable. Et l'énergie qu'il y a eu, par exemple, sur la création du label Cagnard aussi, qui était une création de Marc Coutebrose, qui est quelqu'un qui a compté beaucoup pour nous ici à Montpellier, et ailleurs dans la scène, on va dire, indépendante d'une manière générale, dans la scène électro, dans la scène punk, puisque c'est lui qui a fait finalement les deux compiles de l'École Garrigue dont je parlais tout à l'heure. Mine de rien, cette énergie qui est arrivée avec les camions, avec toutes ces free parties, etc., elle va nourrir effectivement à la fois la scène électronique, mais aussi toutes les autres scènes. Comment on va retrouver ça aussi un mouvement hip-hop qui finalement n'est pas héritier esthétiquement du punk, mais de l'esprit, le do-it-yourself. Parce qu'en fait, ils vont être aussi dans l'idée de créer leur propre média, de créer leur propre label, de créer leur propre marque. Et maintenant, la fringue, pour eux, c'est un projet économique. Mais ça n'empêche que ça n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu ces précurseurs dont vous êtes tous. Et encore une fois, merci. Moi, je suis méga fan.
Merci à chacun des acteurs de cette expérience. Oui, Lévi, tu veux dire autre chose
hein? Moi, par rapport à ce que tu disais, tu viens d'Orange. Moi, j'étais à la Cité Saint-Martin, quoi. Donc, c'était un petit peu les textes d'OTH, oui, on y a pensé. Parce qu'il ne se passait rien, on s'emmerdait. On était tous plus ou moins ici, fils de pieds noirs. Oui, heureusement qu'il y a eu la musique, parce que sinon, pour nous, tu parlais de passe-plat ce matin par rapport à la culture. Par rapport à la politique, moi c'est là où je n'étais pas d'accord avec toi. Moi venant de milieu pied noir et mon grand-père étant colonel de l'armée d'Afrique, heureusement qu'il y a eu la musique. Parce que sinon je ne serais pas là et je ne voterais pas la même chose. L'arrivée des Clash était importante quand on s'est rencontrés avec OTH, je me rappelle, il y avait OTH et Gilles qui m'ont dit non, non, mais c'est pas possible. Viens à Alala, et tous les mercredis, on allait à Alala, on écoutait de la musique, on écoutait des nouveaux disques, sauf que les paroles étaient importantes. Pour les gens nouveaux de la ville, on ne sait pas trop ce que c'est, je pense, mais il y a quand même 100 000 pieds noirs qui sont arrivés. Et vous êtes les trois quarts enfants de pieds noirs aussi, et nos parents n'avaient pas forcément les mêmes idées que nous. Ouais. Donc moi, j'ai eu un cursus pareil, hein. Je ne me doutais pas un jour que viendra Paul Valéry. J'ai fait la colline, comme Michel, les shérifs, comme pas mal, pour se barrer. Moi, j'ai fait un bac hôtelier pour me barrer vite et travailler, quoi. Donc le problème, je pense que toi, tu disais que tu avais fait ça pour boire des coups, et tout ça. Moi, ça m'a apporté de changer d'opinion, de rencontrer d'autres gens, parce que quand j'étais gamin, les gens de gauche, je n'en connaissais pas, quoi. Donc, c'est pour ça que l'esthétique, oui, mais vos paroles ont été décisives sur beaucoup d'entre nous, en fait. Après, tu parlais, c'est vrai que l'influence des vierges, bon, voilà, tu le sais, hein, on avait beaucoup de choses à exorciser, donc grâce au frère Picon, je l'ai exorcisé un peu à leur manière pendant quelques années, c'est qu'il m'a valu quelques embûches dans le milieu rock qui est... Et je les paye encore aujourd'hui, mais c'est ça aussi. Et pareil, les paroles de la souris, quand on dit ça, hier on était à Istres avec Philippe, voir un concert, on se disait putain, samedi soir la jeunesse s'amuse, tu vois, il y avait deux personnes dans le bar où on allait faire l'apéro, c'est angoissant, alors qu'on est à Istres en 2019. Donc j'ai dit merci à vous, mais voilà, le constat c'est politiquement, oui, le rock pour nous a été important. Et, ça nous a permis à pas mal la réflexion. Toi, tu viens d'Orange, nous, on vient, voilà, avec le passé méditerranéen, les pieds noirs. Bon, mais voilà, je ne dirais pas que tout le monde vote Front National, hein, mais malheureusement, il y a une grande partie. Moi, je suis fâché avec 99% de ma famille à ce sujet-là. Donc voilà, ça c'est pour éclaircir certaines choses avec certaines personnes qui pourraient penser sur des trucs sur nous, parce que Chiblo aux yeux bleus et combien des t-shirts noirs, parce que ça dure toujours depuis 30 ans. Donc voilà, maintenant ça c'est fait, on parlera autre chose. Après, on parlait de la mouvance punk, sauf qu'en 2019, le punk, c'est le hardcore. Pour moi, c'est Agnostic Front. Là, il y a plein de gamins qui arrivent. Ils ont 17 ans, ils écoutent du djent. Bon, moi, je ne suis pas réceptif à ça. Mais il faut leur ouvrir leurs portes. Il faut qu'il y ait la place pour tout le monde. Et c'est un peu en ça. Et tant mieux. Bon, mais maintenant, qui est un peu à la commande de tout ça, tu vois. Peut-être... regarder ce qui se passe un peu plus dans la rue, et ça éviterait peut-être pas mal de problèmes et dans les cités, et que les jeunes s'emmerdent, et réouvrir un peu les portes de la salle Victoire, et donner l'accessibilité du Rockstore, vu que la mairie y est aussi. Et c'est pas un constat contre le Rockstore ou contre Victoire, c'est juste que maintenant, on le voit bien, la jeunesse s'emmerde, quoi. Comme on disait, pourquoi... Nous, on accueille des collectifs de hip-hop à la Secret Place. S'ils viennent, s'ils se retournent vers nous, c'est qu'il y a un problème. Après, je pense que, comme tu disais, maintenant, Exploited, c'est revenu à la mode. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est pas des punks qui viennent voir spécialement ça. Ils le savent, 90%, c'est des gamins qui ont 15 ans. Après, on a fait Cockney. Bon, mais je suis très content que tu aies dit que la première fois que j'ai entendu Cockney, moi, c'est dans le local de l'OTH. Alors que tout le monde pensait que là-haut, c'était des mouvements nazis. Donc il y a aussi beaucoup d'inculture au niveau du rock à Montpellier. Il y a toujours les mêmes problèmes qu'il y a 30 ans d'accessibilité. Il y a un problème de fréquentation des salles à Montpellier. En présentant bien placé... à côté de moi, il te le dira, la fréquentation des salles en France augmente, à Montpellier, elle régresse. Alors, je pense que les primo-arrivants ne sont pas au courant de ce qui s'y passe. On a un problème d'accessibilité à la presse. Tu parlais de la télé, après, le problème du rock, mine de rien, nous, on avait Rapido, on avait les enfants du rock, on voyait les Trotskids à la télé, on voyait plein de trucs. Maintenant, il n'y a aucun média qui donne accès au rock, au punk rock, au hard rock, tout ce que tu veux. Après, il n'y a pas que ça. La vie universitaire, on est à Paul Valéry. On parlait du pass culture il y a 5-6 ans. Ça représentait entre 15 et 20% de notre billetterie. C'est-à-dire tous nos concerts sont à 5 euros pour les étudiants. Maintenant, on n'est pas tout à fait à 1,2% des étudiants. Donc, est-ce qu'ils ont accès à ce qu'on fait? Est-ce que ça les intéresse pas? Je ne pense pas. C'est juste... que la ville, elle a triplé, quintuplé, je ne sais pas, depuis 20 ans, 30 ans. Et, sauf qu'il n'y a plus de médias ou d'endroits où il y a une grosse visibilité. Avant, la Gazette donnait une grosse tribune. C'est la crise des journaux. Il y a moins de pages, il y a moins de photos. Montpellier Plus a disparu. Il n'y a plus de mise en avant de la scène locale. On se tape direct Montpellier, mais il n'y a que les infos... parisienne dedans, il n'y a pas de radio forte, il n'y a pas comme à l'époque Alligator qui diffusait la scène, qui annonçait les concerts. Nous, on sort de l'écho des Garrigues, on faisait ce qu'on voulait, on organisait sous le nom de l'écho des Garrigues. Comme je disais, moi, mes premiers concerts, même maintenant, je ne sais pas si on arriverait à faire des affiches, la mort des chrétiennes présente les bananes métalliques, tu vois, c'était en 88. Donc, 30 ans après, je pense que c'est encore plus dur, puisque maintenant, on a peur de taper sur... Il faut faire attention à tout ce qu'on dit, puisqu'on a peur des procès et des jugements des gens. Alors que le punk, à la base, c'est on doit pouvoir rire d'à peu près tout et faire à peu près ce qu'on veut. Alors que maintenant, on ne peut pas...
Merci, Fifi, pour cet état des lieux.
Une petite anecdote.
Oui.
C'est une petite anecdote. À l'époque de la sortie de charbon, sur des charbons ardents, et sur les charbons ardents, c'est une photo où on voit 5 mecs qui sont à un poil avec des tobalènes. Et en fait, pour cette tournée-là, on avait des affiches, et c'était ce truc en grand, quoi. Et on a eu tous procès dans différentes villes de France, on a eu tous procès, et tous ont pas abouti parce que les membres n'étaient pas en érection.
Oui, oui, Yves, allez-y, oui.
Je rebondis juste par rapport à ça, à cette frilosité. Un des coups, effectivement, au niveau de l'affichage, de la communication, à l'écho, on était vraiment héritier de cette tradition de provocation. Et une des affiches qu'on a fait, qui est un truc de dingue, c'était une photo, en fait, d'un piercing sur une bite, mais tellement en macro qu'en fait, je pense que personne n'a vu. C'est chelou, c'est un peu... C'est, je sais pas, c'est abstrait. Et en fait, il y avait un slogan qui s'appelait « Relève ton bite ». Donc vous imaginez la finesse du propos quand même. Hein. « Relève ton bite », l'écho des Garrigues, on en a balancé, mais des je sais pas combien, des milliers d'affiches de partout. Et il n'y a jamais eu un seul truc, alors qu'à l'écho, on était quand même un peu abonnés aux emmerdes. Et ça, c'est passé comme une lettre à la poste, alors qu'on a recouvert de bites toute la ville. Et c'est un peu incroyable.
Merci beaucoup. Alors, on va peut-être aussi donner la parole aux membres du public, puisqu'on parle de la scène Montpellier-Rennes. Voilà, il y a les deux côtés de la scène. Il y a ceux qui sont sur scène, mais il y a aussi ceux qui viennent écouter. Et ils ont peut-être aussi leur mot à dire. Donc, voilà, il y a deux micros. On va les faire passer dans la salle. N'hésitez pas à lever la main.
On va faire un seul micro et on garde pour répondre.
Oui.
J'ai deux questions pour Guy. Pour revenir sur le label et sur le magasin de donc tu produis des 45 tours et tu as parlé un peu de Mélodie Massacre qui est un petit peu dans le même. Son même esprit, est-ce que justement, qui est à Rouen, qui a produit tous les 45 tours des Dove, de Mélodie Weinstein, est-ce que ce magasin-là, justement, t'a donné, t'a influencé dans le fait de produire ces 45 tours? Est-ce que ton magasin était aussi en relation avec d'autres magasins au-delà de Montpellier, son territoire national?
Oui, première réponse, non. Le contact avec Mélodie Massacre, avec s'est fait après. C'est-à-dire que nous, on a créé le magasin, le label, et c'est ensuite qu'il y a eu le label qu'effectivement on s'est rencontré avec Neurose, avec Mélodie Massacre. C'est là qu'on s'est connu. Au départ, non, c'était pas un modèle, ça a été quelque chose. Qui s'est fait en parallèle, ils étaient avant, hein. Mais je l'ai fait absolument en parallèle, et on s'est rencontrés après, effectivement, après on travaillait, après on se connaissait, on travaillait ensemble, oui, bien sûr, oui. Mais ça a été, non, il n'y a pas eu de contact. Ce qui était intéressant, c'était de créer. Bon, ce qu'on disait, c'était pas tellement le truc, c'était cette énergie. Donc, effectivement, l'énergie, il fallait qu'elle soit là. Ça nous servait pas à grand-chose d'avoir un modèle. Hein, on réinventait le fil à couper le beurre à chaque histoire. Hein, on repartait à zéro, dit en tête. Le modèle, non. Donc, après, oui, on était posés. Après, oui.
Une autre quantité sur les historiens de sur les salles pour avoir justement étudié la Normandie, un des réseaux qui donne la parole au mouvement punk sont les MJC. Est-ce que sur Montpellier il y a ce réseau, alors plutôt banlieue, généralement c'est plutôt la banlieue, voilà, est-ce qu'il y a ce réseau de MJC autour de Montpellier ou dans le Grand?
Oui. Alors bon, oui, je vais répondre un petit peu à sur les salles, effectivement. Il y a des problèmes de salles à Montpellier. Bon, il y a tout un tas de problèmes. Premier problème, effectivement, tu disais que la fréquentation baisse. On a à Montpellier, on est passé d'une ville qui était une petite ville moyenne, où le bouche à oreille fonctionnait vachement. Moi, mon magasin, tu m'étais, je te dis, qui avait une affiche A4 sur la vitrine. Le lendemain, toute la ville savait ce qu'il y avait. Et là, il y a un turnover chez les gens, il y a quelque chose qui empêche ce bouche à oreille. Et on n'a pas réussi à embrayer sur un modèle plus haut. Plus adapté à une ville plus grande, avec des gens qui se fréquentent moins, bon, c'est plus compliqué. Bon, il y a aussi la curiosité de l'âge, bon, les gens qui sont plus, peut-être moins motivés, peut-être plus, j'en sais rien, voilà. Sur les salles, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Le rockstore est quelque chose de spécial. Le rockstore, ils sont chez eux. C'est-à-dire, c'est pas une salle municipale. La municipalité a les murs. Et ensuite, on n'intervient pas effectivement sur le contenu humain. Voilà. Sur la salle Victoire, c'est un petit peu différent. Là, c'est une salle effectivement municipale. Je suis d'accord avec toi qu'il faut voir le fonctionnement de la salle Victoire. Bon, c'est quelque chose. Mais maintenant, il y a quelque chose. Alors là, je ne sais pas si non, c'est même pas les lui qui parlent. Une de mes premières rencontres avec Georges Frêche, quand je disais que j'étais porte-parole des rockers pour avoir la salle Victoire, la première. Il arrive, c'était Frêche, c'était en 80 et tout. Il me parle, il dit ah, combien il va me demander celui-là? Et la première réponse que je lui ai dit, je ne vous demande rien. Il ne faut absolument pas que le rock touche une subvention. Ce que je vous demande, c'est que le rock ait des structures pour se montrer. On veut des salles qui soient équipées de manière décente, mais surtout pas que le rock soit subventionné. Et je reste, bon, 40 ans après, je reste, et là, maintenant, je suis élu en plus. Je reste sur ce type de position où, effectivement, il faut se méfier quand le politique, quel qu'il soit, même si c'est rentre effectivement dans le contenu de quelque chose. Hein. Le politique, il est là pour faire les routes, pour que les gens puissent aller quelque part. Ils y vont, ils y vont pas, on s'en fout, c'est leur histoire. On ouvre une salle, les gens la fréquentent pas, c'est leur histoire s'ils en profitent pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que c'est rendre l'histoire désirable, c'est que ce soit dans des conditions bonnes, mais pas rentrer dans la programmation. Alors c'est un équilibre qui est compliqué, parce que si la programmation est pas bonne, donc ça va pas, ça fait une espèce de puits, de spirale descendante, bon, c'est emmerdant. Voilà. Mais voilà, c'est compliqué. Effectivement, le rôle d'une institution, c'est de donner la possibilité qu'il se passe quelque chose. C'est pas de provoquer quelque chose. Provoquer quelque chose, tu le provoques jamais. Si ça vient pas des gens, si ça vient pas... Oui, des gens. Si ça ne vient pas de la rue, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tu ne crées pas le mouvement. Voilà. Par contre, ce mouvement qui vient de la rue, comme il y avait bon, après le concert des Halles à OTH, il était évident à ce moment-là. Là, c'est vraiment le truc, ça part de la rue et ça aboutit à une salle. Bon. Ça, c'est un problème.
Et justement...
Je voulais dire un truc à ce sujet, bon, parce qu'on a quand même le débat ici, c'est surtout le punk rock, là ça dévie un peu sur le rock en général. Pour les salles, ce qu'on a eu, effectivement, après j'avais raconté ces histoires de salles, mais c'était vraiment la préhistoire. Sur le punk rock, j'essaie d'être un peu plus positif, parce qu'on a connu le succès de l'Alterno à Montpellier, où les baroques on s'est régalé, c'est sûr, on a eu des tas de concerts, mais ce mouvement est mort de son propre succès. Et là, ensuite, lorsqu'il y a eu ces années de plomb, je parle de les années 90, le début des années 2000, où on s'est fait chier comme des ramors, c'était pas possible. Et après, tu te retrouves avec des associations qui n'ont pas eu peur de se remettre dans le souterrain, de prendre des... Alors qu'on avait goûté à des salles où il y avait des sonos conséquentes et des structures OK, là, de reprendre des sonos d'appoint, tu sais ce que c'est, de reprendre du matos pérave, de prendre des groupes dont le nom, t'as pas envie d'aller les voir, mais enfin, dans des cajibis, parce qu'on va arriver au cajibis, voilà, et on arrive dans des salles comme ça, et ces mecs vont mettre les mains dans le cambouis et battre le rappel. C'est-à-dire, nous, les anciens qu'on a eus, je me souviens, on avait un petit message sur le répondeur. Allô, t'avais le message, allô Punky, ce soir, il y a les couilles molles qui vont jouer à l'endroit où tu sais. Je ne connaissais pas du tout ce groupe-là, tant pis, ben on sort. Hein. Ça voulait dire debout les morts. Et on allait dans un endroit secret. Et là, on a commencé à lever la tête. Et en fait, tout cet underground, ça nous a permis. Ce retour à l'underground permet, fait renaître la passion. Après, les clivages de dire avant, ouais, moi j'écoutais les Pistols parce que j'étais un punk 77, j'écoutais pas les Exploited parce que eux, évidemment, ça c'était qu'une ressucée. Mais là, c'est fini. C'est fini, on est tous unis sous la même bannière. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va. On va voir n'importe quelle association qui se bouge le cul. On se retrouve à Pézenas, chez le joyeux Loufoque, qui loue une ancienne gare comme ça, qui font les après-midi de la gare du Nord. Et tu vas voir autant au taquet que d'aller voir, les Mad Burns, votre groupe. On est tous sur ce même truc et on appelle ça du punk rock. Qu'il soit hardcore, que ça soit All Border Skill ou que ce soit un groupe où les Palabas Surfers, c'est la même chose. Et on se retrouve avec des structures comme ça qui font vivre le truc. Je parlais du KGB parce que là, ils sont venus. C'est important parce qu'on va les entendre, ils ont des choses à dire. Il faut voir un peu ce qu'ils font. La TAF, bon, on n'en parlera jamais assez. Ouais. Et d'autres assos qui ne sont plus là, je disais le Joyeux Bouffon, et des tas de personnes qui font encore vivre le truc. Je vais vous dire, ils sont le présent et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'accroche. Voilà.
La première, c'est on a l'impression finalement dans votre discours qu'il y avait plutôt une osmose entre OTH, Shérif, dans cette génération-là, les Vierges, et peu de rivalité. Or, dans d'autres villes qu'on a visitées, il y avait des rivalités dans nous. Alors, est-ce qu'il y en a eu quand même? Et si oui, lesquelles? Et ma deuxième question, c'est à propos des générations, parce que tu évoques un trou, un vide à un moment. Est-ce que finalement, il y a une transmission générationnelle hors assos? On va dire que c'est les assos qui transmettent un peu la philosophie du peuple. Est-ce que les groupes actuels, les jeunes groupes, par exemple, ont conscience qu'il y a eu OTH, les Shérifs et les autres avant, ou pas du tout? On est dans un esprit punk véhiculé par les assos, mais pas par la musique antérieure.
D'accord, ben là je propose de répondre à ta première question et que Fifi réponde à la seconde. Si
ouais, c'est un peu comme ça que
je pense que ça serait ok. Donc la première, rappelle-la moi.
Est-ce qu'il y a eu vraiment...
pour te dire, ce n'était pas...
Parfois des clivages...
Je vais te schématiser ça, je te réponds rapidement. C'était comme dans toutes les villes, il ne faut pas non plus ni noircir le tableau, ni faire du bisounours. Hein. On n'était pas, c'était pas non plus la grande fraternité. C'est maintenant, je veux dire, quand il y avait la patine du temps et tout ça, il y avait bien sûr avant des petites querelles intestines, mais c'était dû à l'intransigeance de la jeunesse, dû à la testostérone, tout ce que tu veux. Bien sûr, on se foutait sur la gueule pour des broutilles. C'était pas la grande unité, pas du tout. Mais disons, mais ce n'était pas grave. Ça veut dire qu'avec la patine des ans, tout cela a été effacé. Et quand on se voit tous, quel qu'on soit, même des hard rockers, même des mecs qui jouaient de la musique progressive, qui nous brisaient le roupillon, etc. Et bien on se voit, on s'embrasse, parce que voilà, nos différends n'étaient pas graves. Ouais. Voilà.
Oui. Juste, voilà, Fifi va conclure en 4 minutes ou moins, afin qu'on puisse tous faire une pause avant l'atelier suivant.
C'était quoi exactement la question?
Ça peut être intéressant, mais en gros... Est-ce que les jeunes groupes actuels, parce que maintenant vous les fréquentez, ils se réclament un petit peu, ou pas du tout, ou pas d'une filiation, mais en tout cas d'une transmission d'héritage? Moi j'ai l'impression dans le discours, comme il y a eu un moment à creux, un vide sur la musique, que finalement il n'y a pas une vraie transmission d'une génération à une autre.
Bah, le groupe qui marque le plus les jeunes et qui connaissent le plus, c'est les Shérifs. C'est celui qui a duré le plus longtemps. qui a fait le plus de concerts, qui a vendu le plus de disques, et qui s'est reformé, qui continue à tourner. Donc voilà, après, au TH, ils sont arrêtés en 91. Là, les disques ressortent, et c'est tant mieux. Le problème, c'est que l'artiste était introuvable pendant des années. Bon, la magie d'Internet, même si ça a cassé tous les labels, permet quand même que les gens les trouvent. Mais je pense pas, à l'heure actuelle, là, les gamins sont plus sur le métal ou autre chose que sur le punk rock. Pour 15 groupes qu'on a dans les locaux de répète, il y en a 10 à 4, je dirais, allez, 13 qui sont plus tournés vers le métal et 1 à 2 pour le punk rock. Je pense que c'est à peu près partout pareil. Disons, dans nos locaux de répète, c'est à peu près ça.
Merci beaucoup. Voilà, donc on termine ainsi sur la table ronde Émergence Montpellier-Rennes. Merci à tous les acteurs. Alors, prise de parole, merci à vous pour vos questions. Je vais vous observer une dizaine de minutes avant de passer à l'autre atelier. Qu'en est-il aujourd'hui ?